les conférences de sciences humaines du Cégep de Thetford. Vendredi 8 avril, midi. Femmes antiféministes et hommes proféministes. Réflexions croisées sur deux catégories politiques. Une conférence d'Annie Grégoire Gauthier et d'Emmanuel Gay, département de sociologie, Université Laval.
Aujourd'hui, je vais remercier aussi le Cégep de Thetford et le département de sciences sociales et psychologie de nous avoir invités aujourd'hui. C'est vraiment une belle opportunité pour nous. Donc, nous, c'est ça, aujourd'hui, on va venir vous parler des femmes antiféministes et des hommes proféministes. Donc, femmes antiféministes, c'est-à-dire des femmes qui se disent ouvertement non-féministes ou qui adoptent des comportements qui sont antiféministes. Et des hommes proféministes, donc qui se considèrent comme, donc qui adhèrent aux principes féministes et qui se considèrent comme des alliés dans la lutte. Donc, ça peut être surprenant au départ d'essayer de croiser ces deux catégories-là, parce que c'est dans les faits, c'est un peu bizarre là, de croiser ces deux catégories-là qui apparaissent comme étant très, très à l'opposé l'une de l'autre. Donc, d'un côté, on a des femmes qui sont souvent très proches des milieux de droite, des milieux conservateurs, qui sont souvent aussi issues de milieux plus favorisés, plus aisés. Et de l'autre, on a des hommes qui, généralement, sont plus proches des milieux de gauche et qui sont souvent aussi sensibles aux questions de justice sociale. Mais malgré les différences là, entre ces deux catégories-là, nous, on croit que c'est intéressant, justement, de réfléchir à ça puis de voir c'est quoi les similitudes, qu'est-ce que ça peut nous apporter de les réfléchir ensemble. Et ce qui permet de nous réfléchir aussi au niveau stratégique sur les stratégies du mouvement féministe. Donc, en tant que militante féministe, en tant qu'homme qui essaie le plus possible d'être un bon allié féministe aussi, d'essayer de voir, de réfléchir ces deux catégories-là, puis de voir, en fait, qu'est-ce que ça nous permet de voir un peu dans notre horizon stratégique pour le mouvement féministe. D'abord, on considère que ces deux catégories qui posent problème, en fait, pour le mouvement féministe. Donc, d'un côté, on a des femmes qui devraient normalement être des alliées, qui, en fait, pour un mouvement qui prétend défendre leurs intérêts, mais qui en viennent à combattre ce mouvement-là. Et de l'autre côté, on a des hommes qui finissent par adhérer à des principes féministes, mais qui peuvent rapidement devenir des faux alliés, en fait, qui peuvent venir freiner la lutte féministe. Donc, ces deux catégories-là, première similitude, ça peut poser problème en tant que féministe dans le mouvement. Ensuite, c'est aussi deux catégories qui ont énormément de visibilité dans les médias, particulièrement depuis les dernières années, là, avec les médias sociaux. Donc, on l'a vu récemment aussi dans les médias, vous en avez sûrement entendu parler, avec l'histoire de la ministre Listerio, qui est la ministre de la Condition féminine, qui s'est affichée comme étant antiféministe contre le féminisme, qui s'est affichée ne pas être féministe, en fait, qui a été suivie aussi par Stéphanie Vallée, qui est la ministre de la Justice. Donc, qui ont eu énormément de visibilité médiatique. Et d'un autre côté, on a aussi la situation de Corias, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est un rappeur qui s'affiche comme étant pro-féministe et qui a amorcé une tournée dans les cégeps qui a eu aussi une très grande visibilité médiatique. Donc, cette visibilité-là, c'est très rare que les féministes vont l'avoir, toute cette visibilité-là dans les médias. Mais ces deux catégories-là, eux, réussissent à avoir ça, finalement. Et finalement, ça nous permet de réfléchir à la question de la solidarité aussi des horizons stratégiques du mouvement féministe. Donc, comment réfléchir à la solidarité entre femmes quand il y a des femmes qui s'opposent au projet féministe? Est-ce qu'on doit continuer à les considérer comme des alliés? Quel espace aussi faire aux hommes dans la lutte? Est-ce qu'eux peuvent être des alliés aussi pour les féministes? Est-ce qu'ils ont une place à l'intérieur du mouvement féministe? Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, de réfléchir à tout ça. On va commencer par chacun notre tour présenter un peu, faire un rapide portrait de ces deux catégories-là. Puis ensuite, on va réfléchir un peu plus sur justement ces questions auxquelles on se pose. Puis on va finir aussi par vous laisser la parole à la fin. Donc je vais commencer avec les femmes antiféministes et Manu va plus nous parler d'Emmanuel. Manu, je vais l'appeler Manu parce que je l'appelle toujours Manu. Va nous parler plus de la situation des hommes proféministes. Alors, comme je vous disais, il y a deux événements dans les médias qui ont été un peu le point de départ de ma réflexion sur les femmes antiféministes. Premièrement, il y a le mouvement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était surtout dans le milieu anglophone, mais il y a le mouvement Women Against Feminism qui s'est passé beaucoup sur les médias sociaux en 2013-2014. En fait, c'est des femmes qui, sur Twitter, sur leur page Facebook, sur YouTube, se sont affichées ouvertement comme étant contre le féminisme. Donc, c'était souvent, en fait, sur des bouts de papier, « Je ne suis pas féministe parce que » ou « Je n'ai pas besoin du féminisme parce que ». Puis ça a été un mouvement qui a pris quand même beaucoup d'ampleur en 2013-2014. Donc ça a été un premier point de départ. Et il y a aussi, bon, plus récemment, l'affaire Mysterio, qui a aussi fait réfléchir aussi sur, une femme, le ministre de la Condition féminine, celle qui est censée représenter l'intérêt des femmes au Québec, qui s'affiche comme n'étant pas féministe. Ça aussi, ça a été un mouvement, un moment important dans notre réflexion là, sur ça. Qu'est-ce que l'antiféminisme d'abord, pour essayer de se situer un petit peu? Donc, c'est un contre-mouvement qui s'oppose au féminisme. En fait, qui tente de démontrer les dérives du féminisme. Donc, c'est une posture qui dit que le féminisme serait allé trop loin, que l'égalité aurait été atteinte au Québec, principalement au niveau juridique. Donc, parce que l'égalité de droit serait atteinte et tout le reste, l'égalité homme-femme serait atteinte. Et qu'en ce moment, le féminisme, les demandes qui sont faites, ça serait pour accorder des privilèges aux femmes, parce que l'égalité est atteinte. Donc, ça s'oppose au féminisme. Il y a aussi un type de féminisme qui est le masculinisme, qui dit en fait que les hommes qui auraient eu un renversement et que ça serait aujourd'hui les hommes qui seraient en crise. Donc, on parle beaucoup de la crise de la masculinité, donc qui seraient aujourd'hui les désavantagés dans la société québécoise. Donc, on va souvent, disons, les discours les plus populaires c'est autour de l'échec scolaire des garçons, du suicide des hommes, etc. Donc, ils vont prendre ces arguments-là pour démontrer, en fait, que le féminisme est allé trop loin et que c'est maintenant les hommes qui sont les grands désavantagés au Québec. C'est comme ça. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce que c'est nouveau, ce phénomène-là, l'antiféminisme des femmes? Est-ce que c'est quelque chose qui vient tout juste d'apparaître? Et non. Donc, l'antiféminisme au féminin, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui apparaît à chaque mouvement, à chaque, disons, on pourrait dire vague ou moment fort du féminisme. Il y a un contre-mouvement qui vient aussi après. Et les femmes, évidemment, participent à ça beaucoup. Donc, au départ, il y a, lors de la lutte pour le droit de vote des femmes, il y avait des femmes, généralement issues de mouvements de milieux privilégiés, qui se sont battus contre le suffrage des femmes. Donc, on a ici un exemple qui date de 1912. C'est une affiche à Londres. Donc, c'est une femme qui dit « No votes, thank you » et « The appeal of womanhood ». Donc, c'est une femme qui est appelée vers la maternité, qui dit « Moi, j'ai pas besoin du droit de vote ». Et c'était donc une publicité pour du mouvement de la Ligue nationale contre le suffrage des femmes et où il y avait beaucoup de femmes impliquées aussi. Donc, c'est généralement, en fait, des femmes qui s'impliquent dans ces mouvements-là. C'est des femmes qui sont, comme on le disait, issues de milieux plus privilégiés ou qui gravitent déjà autour du pouvoir. Donc, qui soit sont la femme de quelqu'un connu ou la sœur, ou etc. Et donc, qui ont déjà un statut social qui est assez enviable puis qui ne veulent pas nécessairement transformer un système qui leur a permis de se rendre là. T'sais. Donc, de vouloir réformer un système politique qui leur a permis d'avoir quand même accès à une certaine forme de pouvoir, bien, de vouloir tout transformer ça leur permettrait de perdre certains privilèges. On peut penser aussi, plus proche de nous, pendant la campagne pour le droit de vote des femmes au Québec, en 1922, il y a le clergé qui a initié une pétition de femmes en milieu rural qui a récolté 25 000 signatures de femmes qui s'opposent au droit de vote des femmes, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a pris quand même beaucoup d'ampleur là, à ce moment-là. Et on peut penser aussi à un autre exemple assez connu, les femmes contre l'avortement. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis les années 60, qui existe. Et encore aujourd'hui, dans le mouvement pro-vie, il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent. On peut aussi penser à l'anecdote en 2012 de la fameuse Rona Ambrose, donc qui était ministre de la Condition féminine à l'époque au fédéral, et qui a appuyé la motion d'un député conservateur qui visait à rouvrir le débat autour de l'avortement afin de le rendre légal. Donc, c'est quand même encore une fois, ministre de la Condition féminine au Canada qui se positionne contre l'avortement. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais auquel on assiste encore aujourd'hui. Ensuite, je vais essayer de dresser un portrait de c'est quoi les types de femmes antiféministes les plus fréquents. Le premier type, ça serait les antiféministes de droite ou conservatrices. Donc, c'est des femmes qui vont être antiféministes au nom d'un ordre supérieur, donc soit la famille, la tradition, Dieu, etc. Et qui a souvent une connotation religieuse autour de ça. Donc, pour elles, en fait, les féministes ne respecteraient pas Dieu, la nation, la famille, etc. Et c'est souvent des luttes autour du droit à l'avortement qui viendraient, pour elles, déconstruire un ordre familial traditionnel. Donc, on peut penser à Romain Ambrose, encore une fois, qui s'est prononcée aussi en 2012 contre le financement public des garderies, contre l'équité salariale, etc. Donc, voilà. Et qui s'est, en ce moment, Romain Ambrose, c'est la chef intérimaire du Parti conservateur. Donc, elle a quand même un poste très, très, très important au sein du Parti conservateur, qui défend les institutions traditionnelles du mariage, etc. Il y a aussi des organisations, donc ici j'en ai mis une, le Real Women of Canada, qui est une organisation de femmes qui se positionnent aussi contre le féminisme et qui ont des positions idéologiques plus conservatrices aussi. Donc, c'est un groupe qui est judéo-chrétien, anti-avortement, contre le mariage du même sexe, etc., mais qui est composé aussi uniquement de femmes. Donc, eux autres qui affirment, c'est que la famille, c'est l'unité sociale la plus importante, que les femmes devraient rester au foyer, et ils sont très, très actifs dans la lutte contre l'avortement et les droits, contre les droits des homosexuels aussi. Donc, notre premier type de femme, ça serait plus un anti-féminisme idéologique, en quelque sorte. Ensuite, mon deuxième type, ça serait les femmes parvenues, comme je les ai appelées. Donc, c'est des femmes qui ont réussi à atteindre des milieux très valorisés, des espaces privilégiés dans la société. Donc, on peut penser à des femmes politiciennes, à des femmes chefs d'entreprise, à des femmes dans des milieux médiatiques aussi, qui ont beaucoup de visibilité. Et en contrepartie, donc, elles n'osent pas trop remettre en question le système qui leur a permis de se rendre là. Donc, ça serait un peu, en quelque sorte, d'évaluer leur propre réussite. Donc, comme je disais, c'est des femmes souvent aisées, généralement blanches, généralement hétérosexuelles aussi, et qui n'ont pas l'impression, elles, d'avoir vécu beaucoup de discrimination dans leur propre parcours, mais elles vont exporter leur expérience personnelle à l'ensemble des femmes. Donc, parce qu'elles, elles ont réussi à se rendre là, ben tout le monde est capable. Moi, j'ai réussi, donc, tu sais, je ne vois pas pourquoi, tu sais, les femmes, on est capable de se rendre à la tête d'une entreprise, je l'ai fait, moi. Donc, ça serait... C'est un peu la posture des femmes parvenues. J'ai mis l'exemple en haut, j'étudie présentement au département de sociologie à l'Université Laval, et la première femme qui a été engagée comme prof au département en 70, je pense, Nicole Gagnon, c'est cette posture-là, en fait, qu'elle adopte. Donc, c'est une femme qui a écrit un essai qui s'appelle « L'antiféministe ». Donc, elle se positionne elle-même comme étant antiféministe. Et quand on lit cet essai-là, ce qu'on réalise, en fait, c'est un peu son histoire à elle. Et c'est exactement ça. Donc, tout le long, elle dit, ben moi, j'ai réussi à me rendre au département. J'ai jamais vécu de discrimination. Ça s'est super bien passé. Mais, en fait, c'est un peu particulier en tant que sociologue d'exporter, en fait, toute une situation sociale à sa propre expérience à elle, qui vient d'un milieu aisé, qui est blanche, etc. Donc, c'est de nier, en fait, toute une structure sociale que la majorité des femmes vivent. Donc. Et j'ai mis aussi Denise Bombardier, qui est une autre qui a une grande visibilité médiatique, et qui aussi est une antiféministe notoire au Québec, qui parle beaucoup justement de la question de la crise de la masculinité. Là, c'est, si on veut des beaux exemples, on peut aller voir ce que Mme Bombardier écrit. Ensuite, notre type, ça serait les antiféministes essentialistes. Donc, l'essentialisme, en fait, c'est le discours essentialiste, c'est un discours qui se réfère à une espèce d'essence interne ou une nature masculine ou féminine. Et en fait, c'est ça. Donc, ça serait de dire que c'est de nier tous les faits de la socialisation. Donc, de dire que les garçons et les filles sont différents, non pas parce qu'ils sont éduqués différemment, parce qu'on leur a. On, on, parce qu'on les fait faire des activités différentes qui vont développer des choses différentes, etc. Toute la socialisation dans la famille, à l'école, etc. Mais c'est de dire, non, les garçons et les filles sont différents parce qu'il y a une essence interne différente qui fait en sorte que les garçons sont plus virils, plus dynamiques, et les filles sont... Bon, vous voyez un peu le portrait. Donc, en fait, le discours des antiféministes essentialistes, ça serait de dire... C'est de dire, en fait, que pour elles, le rôle fondamental des femmes, la maternité, aurait été saboté par les féministes, en fait. Donc, le féministe, en insistant autant sur le droit des femmes à travailler, bien, ça leur aurait dévalué le rôle de mère. Donc, ils vont critiquer les dérives du féminisme, notamment... dans le fait que, bon, maintenant, les femmes vont travailler, mais là, ça crée une double tâche. Là, les femmes sont mères, parce que c'est leur rôle, tu sais, d'être mères, mais en plus, elles travaillent, donc les femmes sont débordées. Regardez ce que ça fait le féminisme. Mais c'est d'oublier, en fait, le fait que ça, tout ça, ça s'inscrit dans un système de domination masculine. Donc, si les femmes sont épuisées, c'est pas à cause des féministes qui ont insisté pour valoriser le travail chez les femmes, mais c'est... D'abord, parce que les hommes s'occupent moins des tâches domestiques et familiales. Donc, c'est pas la faute des féministes s'il y a cette double tâche-là. Donc, c'est déplacer le problème est placé d'une drôle de manière. Puis, donc, c'est ça. C'est encore des considérations essentialistes. Donc, c'est dans la nature des femmes de s'occuper des enfants. Donc, les revendications féministes, c'est contre nature. C'est ça. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que les féministes, ça ne nie pas l'expérience de la maternité, mais ça vise à faire en sorte qu'elle soit vécue de la manière la plus égalitaire possible, en fait. Donc, les arguments de ces femmes-là, c'est souvent fondé sur des expériences personnelles. Donc, moi, j'ai envie de me consacrer à mes enfants, puis c'est dévalorisé par les féministes. Donc. Mais sans avoir de réflexion, encore une fois, plus large, plus sociologique, sur les rapports sociaux qui se cachent derrière tout ça. Voilà. Et un autre type, que, en fait, c'est plus un espace, et non un type de femme, mais un espace qui est, donc, ce qu'on voit aussi, c'est des espaces traditionnellement féminins ou féministes qui tendent à, finalement, adopter des discours antiféministes. Donc, ici, j'ai mis l'exemple de Châtelaine. Donc, c'est des espaces qui ont été, au départ, créés par des femmes ou par des groupes féministes qui portaient des revendications féministes. Puis avec les années, en sont venus à être vraiment édulcorés au point d'intégrer des discours antiféministes. Donc, on assiste là, c'est vraiment une symétrisation de la situation des hommes et des femmes. Donc oui, les femmes vivent des trucs, mais les gars aussi vivent des trucs. Puis si on parle des problèmes des femmes, il faut aussi parler des problèmes des hommes de la même manière. Donc, l'exemple de Châtelaine, c'est un magazine qui est fondé en 1960, qui est au départ féminin, voire féministe. Et qui, au fil des années, en est venu à intégrer des discours masculinistes. Donc, on peut le voir, le féminisme va trop loin, nos hommes ont besoin d'aide, etc. Mais, donc, c'est ça, avec une critique du féminisme. On peut aussi penser à l'exemple du Conseil du statut de la femme, qui, en 2005, a publié un avis qui proposait, donc eux-mêmes, proposaient une réflexion autour de la refonte pour le transformer en Conseil de l'égalité. Donc, ce qui vient encore une fois symétriser, puis dire, ben, ce que vivent les hommes et les femmes, il faut juste, dans une perspective égalitaire, mais en niant tout le rapport inégalitaire qui continue de prévaloir. Puis, exactement. Donc c'est de dire aussi que ce qui est, en fait, c'est de lutter contre le fait que quand on accorde des ressources, par exemple, aux femmes, ben, c'est de dire, ben, on devrait en accorder autant aux hommes de la même manière. Mais alors que c'est nier, encore une fois, toute la perspective politique puis les inégalités sociales qui subsistent. Donc, et ensuite, je vais faire un petit portrait rapide, ça va le temps? Okay. Des principaux discours, en fait, les principaux arguments des femmes antiféministes. Et là, je me suis inspirée beaucoup de ce que j'ai trouvé sur Internet, notamment le fameux « I don't need feminism », le hashtag dont je vous parlais au début, « Women against feminism ». Donc, il y a vraiment beaucoup de perles là, qu'on peut trouver qui m'ont inspirée pour voir un peu c'est quoi les discours qui reviennent le plus. Donc, le premier est le discours, le refus de la victimisation. Donc, « I don't need feminism because I am not a victim ». Donc, le refus de se poser comme étant une victime. D'abord, ça témoigne d'une profonde méconnaissance du féminisme qui vise à faire en sorte que les femmes, justement, arrêtent d'être des victimes d'un système qui les désavantage, qui les discrimine dans toutes les sphères de leur vie, plus globalement de violences sexuelles, les discriminations sur le marché de l'emploi, les sphères politiques, etc. Donc, c'est se poser la question, est-ce que si on arrête de parler des oppressions, soudainement elles vont disparaître? Si on arrête de dire, moi je ne suis pas une victime, donc soudainement ça n'existe plus. Justement, en fait, au contraire, à mon sens, le féminisme, ça insiste sur le pouvoir d'action des femmes, sur le fait que les oppressions vécues ne sont pas figées. Donc, c'est tout sauf être une victime, en fait, c'est d'insister sur, sur le pouvoir d'agir, de transformer notre situation pour essayer d'éviter le plus possible les inégalités. Ensuite, un autre discours qui est très, très, très présent, c'est celui de l'égalité déjà là. Donc, comme je vous disais, c'est atteint, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est fait. On n'a plus besoin du féminisme. Là, j'ai une citation de Lise Thériault, justement. Donc, la réalité des années 70 et la réalité d'aujourd'hui n'est plus pareille. Les gens ont évolué, des choses ont été faites. Donc, féminisme, c'est plus un combat actuel, en fait. Aussi, je n'ai pas besoin du féminisme parce que toutes les femmes ont l'opportunité de réussir aujourd'hui en Amérique. Je n'ai pas besoin du féminisme parce que les différences de salaire, c'est un mythe complet parce que les inégalités salariales sont illégales. Donc, si c'est illégal, si c'est dans la loi, ça n'existe plus. Donc, c'est l'idée, justement, qu'avec les luttes dans les années 60, 70, 80, puis les transformations législatives, l'égalité sera atteinte. Puis qu'en ce moment, le mouvement féministe serait tombé sous le contrôle d'une clique radicale, élitiste, qui voudrait donc prendre le contrôle. Donc, le reste des luttes, en fait, actuelles, ça serait plutôt une lutte, ça serait une manière d'accorder des privilèges aux femmes. Et on peut se demander pourquoi, d'où ça vient aussi cette impression-là. Le mouvement féministe, disons, dans les dernières années, depuis les années 90, s'intéresse beaucoup à des questions plus individuelles. Donc, au niveau, par exemple, de la sexualité, de l'identité, tout le mouvement autour des réflexions autour des réflexions queer, de la transsexualité, etc. Et a un peu délaissé des questions plus structurelles, en fait. Donc, tout plus autour de la discrimination systémique. Et ça peut laisser peut-être sous-entendre le fait que ça n'existe plus tellement vu que c'est moins politisé, en fait, c'est moins posé comme un problème, mais c'est pas parce qu'elle n'existe plus, au contraire. C'est ça. Et puis il y a aussi tout le néolibéralisme, l'idée qu'on s'intéresse beaucoup à l'individu cette espèce d'idée en fait qu'une femme qui veut aujourd'hui, une femme qui veut, elle peut, tu sais, justement, une femme qui veut être chef d'entreprise. La pensée magique, dès qu'on veut, on peut. Donc, cette idée-là est très, très répandue aussi. Mais, encore une fois, ce qu'il faut réfléchir, c'est que ces femmes-là qui arrivent à atteindre certains espaces et qui ont beaucoup de visibilité, mais ça reste une minorité, et ça reste aussi des femmes privilégiées, donc des femmes souvent blanches, comme je disais, hétérosexuelles, etc. Donc, celles qui vivent le plus de discrimination, c'est encore une fois celles qui sont les plus silencieuses qu'on voit le moins. Ensuite, il y a le discours naturaliste, comme je disais tout à l'heure. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais essayer d'aller peut-être plus vite. Donc, c'est la crainte, en fait, de l'indifférenciation. Donc, crainte que, en fait, les garçons puissent plus être des vrais petits garçons aujourd'hui et vice-versa. Donc, c'est toute la question, en fait, je n'ai pas besoin du féminisme parce que j'accepte le fait que les hommes et les femmes sont nés différents et depuis toujours, et je suis parfaitement confortable avec ça. C'est juste la nature. Chaque genre a ses avantages et j'adore les miens. Donc, c'est l'idée, en fait, que... c'est ça, c'est de craindre, en fait, c'est comme si le féminisme essaierait de nier toutes les différences entre les garçons et les filles. C'est très déstabilisant comme posture, en fait. Donc, de remettre en question tout le rôle de la socialisation, ça peut être quelque chose de très, très déstabilisant. On a juste à penser, par exemple, aux parents, quand on leur parle des comportements de leur enfant, de leur dire qu'ils pourraient avoir peut-être un rôle à jouer dans le fait que les petits garçons, leurs petits gars aiment le sport, puis que leurs petites filles aiment la danse. ben c'est très déstabilisant de, pour un parent de prendre conscience du rôle qu'ils peuvent avoir là-dedans, tu sais. Donc, c'est ça. Et puis, c'est un discours aussi de complémentarité entre les hommes et les femmes. Donc, les hommes et les femmes, c'est un discours qui est très hétéronormatif, donc qui entraîne vers pose l'hétérosexualité comme étant la seule norme possible, de dire, ben, un garçon, c'est comme ça, une fille, c'est comme ça, puis ça va ensemble. Donc, il faudrait comme être conforme à cette nature-là interne qui est censée être normale dans la société. Exactement. Donc, ça fige les hommes et les femmes dans des rôles qui sont définis, et puis évidemment, des rôles qui sont inégalement valorisés aussi dans la société. Donc, oui, chaque genre a chaque sexe, chaque rôle a ses spécificités, mais évidemment, le rôle de la femme est toujours dévalorisé. Donc, il y a ça aussi qui n'est pas pris en considération dans ce discours-là. J'achève. J'ai l'impression de parler beaucoup. Ensuite, il y a aussi le fait que les discours antiféministes vont faire un amalgame entre les méthodes et la finalité. Donc, le féminisme, c'est très, très, très diversifié comme mouvement. Il y a un objectif commun qui est l'égalité entre les hommes et les femmes, mais il y a différents moyens de se rendre jusque-là, en fait. Et un amalgame qui est souvent fait, c'est de prendre un de ces moyens-là et de l'appliquer à l'ensemble du mouvement. Donc, les femmes, c'est vraiment un très bon exemple. C'est quelque chose qui revient souvent. Donc, on a un exemple ici en bas. J'ai pas besoin du féminisme parce que j'ai pas besoin de montrer des parties de mon corps pour prouver mon point. Donc, c'est vraiment d'appliquer au féminisme au complet les méthodes d'un seul groupe, de certaines féministes qui ont choisi ce mode d'action-là. Il y a aussi tous les préjugés autour de la radicalité des féministes ou les faits que les féministes sont toutes des lesbiennes, etc. Donc, c'est de prendre une caractéristique de peut-être un petit groupe minoritaire et de l'appliquer à l'ensemble du mouvement. Il y a vraiment un discours d'extrémisme autour du féminisme qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, il démontre bien dans la petite BD ici. Donc, je crois à l'égalité des sexes, t'es féministe. Ah non, c'est beaucoup trop extrême comme terme. Mais quand on l'applique, je crois que l'humain descend du singe, t'es évolutionniste. Ah non, c'est beaucoup extrême comme terme. Là, on voit qu'il y a comme un décalage. Mais le féminisme est vraiment entouré de justement des beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés. Alors qu'au fond, c'est un mouvement qui est hyper diversifié. Donc, autant il y a des féministes institutionnels, réformistes qui vont plutôt essayer de s'impliquer en politique pour essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Donc, mais ça n'a rien à voir avec d'autres féministes qui vont avoir des moyens d'action un peu plus radicaux, si on veut. OK. Il y a aussi une importante théoricienne féministe américaine, Andrea Dworkin, qui a publié un livre qui s'appelait « Les féministes de droite ». Et qui affirme en fait que les femmes de droite ont quand même une conscience claire de leur domination, mais qui en tirent des conclusions différentes que les féministes. Donc pour les féministes, la famille puis le couple, c'est un lieu où il y a une présence importante d'oppression. Mais pour les femmes de droite, selon Dworkin, ça serait un espace sécuritaire en fait, où ils peuvent vivre des relations consentantes. Donc pour Dworkin, certaines femmes de droite verraient plutôt dans la famille une stratégie de repli plutôt que de confrontation. Donc, c'est de dire, c'est ça. Donc, pour certaines femmes de droite, ça serait le repli vers la famille, ça serait un moyen d'être dans un espace sécuritaire. Mais dans les faits, ce que Dworkin va dire aussi, c'est que ça serait faux de croire que le privé, c'est un safe space. Parce que le consentement reste toujours assigné arbitrairement par les dominants aux dominés. Donc, ça reste quand même les hommes qui décident si c'est un endroit sécuritaire ou pas, en quelque sorte. Mais il y a beaucoup de discours autour, justement, de la famille. Là, on a encore un discours de complémentarité entre les hommes et les femmes, mais mon mari est la tête de la famille, je suis le cou sur lequel cette tête tourne. Donc, ça reste... Mais c'est comme, donc je n'ai pas besoin du féminisme parce que pour nous, notre famille, c'est comme ça que ça fonctionne et j'ai choisi d'avoir ce rôle-là et c'est, en tout cas, mais on voit qu'il y a encore, tu sais, la question de la dévalorisation du rôle de la femme qui est toujours un peu en retrait, second, etc. Il y a aussi, bon, la position pro-vie, Évidemment, l'idéologie conservatrice de plusieurs femmes antiféministes fait en sorte qu'elles sont très proches de ce milieu, de cette position. Et ici, c'est plus des arguments idéologiques. Là. Les féministes sont plutôt dépeintes comme étant des méchantes tueuses de bébés. Donc, je n'ai pas besoin d'être féministe parce que je considère que tuer des bébés non-nés, c'est pas un signe d'empowerment. Donc, voilà. C'est une position qui est assez facile à comprendre. Ensuite, il y a le discours masculiniste, crise de la masculinité. Je n'ai pas besoin d'être féministe parce que mon fils ne devrait pas se sentir comme étant une personne diminuée simplement à cause de son genre. Donc, c'est l'idée, en fait, que justement, comme on l'a dit un peu plus tôt, le féminisme serait allé trop loin et qu'aujourd'hui, ça serait les hommes qui seraient dévalorisés. Et c'est pour ça qu'il faut s'opposer au féminisme. Et il y a vraiment une intériorisation. Donc, c'est un discours qui, au départ, a été très, très porté par des groupes masculinistes, mais qui commence à être très intériorisé par les femmes. Donc, dans le projet de recherche que je mène actuellement sur les inégalités de sexe en milieu scolaire, on est en train de réaliser à quel point les enseignantes ont intériorisé le discours de l'échec scolaire des garçons et que c'est de leur faute, en fait. C'est parce qu'il y a trop de femmes en milieu scolaire que les garçons échouent. Donc, il y a une énorme culpabilisation des enseignantes autour de l'échec scolaire des garçons. Donc, il y a une intériorisation de tous ces discours-là, la crise de la masculinité chez les femmes et qui elles-mêmes en viennent à avoir des discours antiféministes à cause de ça. Et il y a aussi une minorisation de l'oppression vécue par les femmes. Donc, j'ai pas besoin du féminisme parce que se saouler dans un party et avoir une relation sexuelle avec un étranger, c'est juste irresponsable, ce n'est pas du viol. Ou, désolée de vous dire ça, les féministes du monde, mais la culture du viol n'est pas vraie. Donc, c'est vraiment c'est beaucoup autour de la violence faite envers les femmes. C'est de dire, en fait, que ça n'existe pas, cette question de culture du viol-là. C'est de mettre ça, c'est très culpabilisateur et moralisateur comme discours. Souvent, c'est de mettre ça sur le dos des filles. Et d'insister aussi beaucoup sur la violence que les hommes vivent aussi, mais sans, encore une fois, en symétrisant complètement l'expérience des filles et des garçons. Donc ça, c'était pas mal les principaux discours qui ressortent. On peut essayer de réfléchir à tout ça. D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une dépolitisation de la condition féminine et une politisation de la condition masculine. Donc la conséquence de ces discours-là, c'est que toutes les revendications des femmes, toute l'analyse en termes de rapport de pouvoir est complètement évacuée. Donc, on symétrise complètement l'expérience des hommes et des femmes. Donc, par exemple, les hommes aussi vivent de la violence, qui fait en sorte, en fait, qu'on ne parle plus de la discrimination systémique que vivent les femmes ou du rapport social inégalitaire qui lie encore le masculin et le féminin. Donc, on l'a vu, par exemple, avec le Conseil du statut de la femme en 2005, qui réfléchissait à l'idée de devenir Conseil de l'égalité, qui, en fait, vient à reproduire cette idée-là, en fait, que la condition de la femme n'a plus besoin d'être politisée, d'être problématisée aujourd'hui. Et en parallèle, on parle de plus en plus des problèmes des hommes et des garçons, donc le suicide des hommes, la garde des enfants, le décrochage scolaire des garçons, etc., qui sont de plus en plus politisés, qu'on entend parler de plus en plus. Donc ça serait un premier constat. Ensuite, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un discours souvent qui est porté par des femmes privilégiées, des femmes blanches, des femmes hétérosexuelles, des femmes qui viennent de milieux aisés, et celles, évidemment, qui ont le plus de visibilité médiatique aussi, qui ont accès à beaucoup d'espace de parole. Puis c'est dangereux parce que ça donne l'impression que ces femmes-là représentent beaucoup de femmes, mais dans les faits, ça reste un discours qui est très minoritaire. Il y a aussi le contexte social, montée de la droite, néolibéralisme. Ça s'inscrit en fait, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt aussi, donc les différences sociales, c'est attribué à des comportements individuels. Donc on voit moins toutes les inégalités sociales générales. Donc par exemple, si les femmes sont moins présentes en politique, ça serait parce que peut-être qu'elles sont moins intéressées ou quoi que ce soit, mais sans réfléchir à toutes les contraintes systémiques qui continuent d'exister encore une fois. Puis la montée de la droite, on le voit aussi avec les discours anti-immigration, tous les discours autour de la protection des valeurs traditionnelles comme la famille, etc. Et la posture délicate, est-ce que ces femmes-là, antiféministes, ça reste des alliés en tant que dans le mouvement féministe? Donc c'est une question que j'ai pas vraiment la réponse, mais qu'on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Comment une chose qui est sûre puis qui est importante, je pense, de se rappeler, c'est qu'il faut admettre qu'on n'est pas d'accord déjà à la base. Déjà dans le milieu féministe, il y a énormément de tensions, de débats, et c'est sain, c'est normal. Donc déjà, faut pas non plus, bon, c'est normal qu'il y ait des choses sur lesquelles on s'entende pas. Et aussi, il faut pas non plus nécessairement attendre qu'il y ait un consensus avant de pouvoir faire quelque chose. Donc, si on avait attendu que toutes les femmes soient pour le droit de vote des femmes au Québec, on l'aurait jamais eu. Donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire, des alliances, des stratégies en tant que mouvement féministe, des choses qu'on peut faire sans avoir le consensus de tout le monde. Mais après ça, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait de ce discours-là, de ces femmes-là, est-ce que c'est des alliés aussi? Ben, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, je vais laisser la parole à mon collègue Manu qui va nous parler des hommes pro-féministes.
Ben voilà, Annie nous a fait un portrait très complet des femmes antiféministes, à la fois comme posture individuelle, mais comme, en quelque sorte, organisation collective qui va s'exprimer dans des groupes comme Real Women, par exemple, dont il y a été question tantôt. J'ai tenté pour ma part de vous parler davantage des hommes qui vont se dire pro-féministes à partir des problématiques que cette catégorie-là pose. Alors, on a parlé des questions stratégiques des femmes antiféministes. Est-ce que c'est des alliés pour les luttes féministes ou pas, en dernière instance? C'est quoi la place qu'elles occupent dans le mouvement de libération des femmes? J'ai posé maintenant deux questions auxquelles j'ai tenté de répondre un peu l'une à la suite de l'autre pour les hommes pro-féministes. D'une part, qu'est-ce qui amène un homme à se revendiquer du féminisme? Qu'est-ce qui fait qu'un homme va se sentir interpellé par la cause des femmes, va se reconnaître en quelque sorte dans ce mouvement-là puis dans ses revendications? Donc, première question. Qu'est-ce qui amène un homme à se réclamer du féminisme? Et deuxième question, comment, au-delà de la prise de position en faveur du féminisme, les hommes qui s'en réclament peuvent quand même poser problème pour le mouvement? Comment une manière de s'engager dans le féminisme ou une certaine posture chez les hommes dans les milieux féministes peuvent en fin de compte nuire au projet d'autonomie des femmes puis en leur capacité en fin de compte à s'organiser elles-mêmes? Alors, sans plus tarder, j'ai essayé de brosser rapidement quelques motifs qui peuvent mener un homme à se réclamer du féminisme. Peut-être on pourrait partir d'une figure dont on entend beaucoup parler, auquel Annie a fait référence tantôt, en l'occurrence Corias, hein, qui est un rappeur québécois assez bien connu, qui a gagné quand même plusieurs prix pour ses albums, et puis qui a publié le 9 juillet 2015 un article qui s'appelait « Natural Born Feminist ». Et puis ce qu'il va dire dans cet article-là, il relate une agression sexuelle dont a été victime sa conjointe. Et il en vient, en fin de compte, à expliquer que quand sa femme lui a parlé du viol dont elle était victime, dans un premier temps, il ne l'avait pas interprété comme tel. Il se disait, ben, elle devait être consentante. Il n'avait pas perçu, en fin de compte, qu'il y avait une contrainte dont elle avait été victime dans le viol qu'elle avait raconté. Et puis là, il dit qu'il y a eu prise de conscience, en fin de compte, de la réalité, en quelque sorte, systémique, on pourrait dire, du viol dans nos sociétés, du fait que le viol est largement banalisé, que les hommes, en quelque sorte, se sentent souvent autorisants à s'approprier le corps des femmes. Et puis là, il relate ça dans cet article et il dit, à la lumière de ça, ben, je réalise que je suis féministe et que je continue à l'être. T'sais. Et il est passé 6 mois plus tard à Tout le monde en parle pour parler un peu, revenir sur cet article-là, puis annoncer qu'il allait commencer une tournée des cégeps avec la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-Dechaine. Et puis pour, en quelque sorte, réaffirmer ses positions féministes en même temps, de dire qu'il était favorable à l'égalité homme-femme, que les inégalités persistaient, puis qu'il voulait faire un effort sincère pour s'insérer dans cette lutte-là, quoi. Notamment pendant l'entremise de ses conférences. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait amener un homme comme Corias, hein, qui est un homme qui correspond à tous les standards de masculinité, qui bénéficie de ses privilèges masculins aussi, notamment le fait qu'on lui accorde une tribune sur une émission écoutée par quelques millions de personnes pour parler d'enjeux qui concerne d'abord les femmes, qu'est-ce qui peut amener, en fin de compte, cet homme-là à prendre la parole puis à se dire féministe, malgré le fait qu'il est un homme? Ben, il y a plusieurs motifs. Dans son cas, on pourrait penser que le fait d'avoir connu une femme qui a été victime de violence peut contribuer à une prise de conscience. Les femmes sont victimes de violence dans un système qu'on dira patriarcal, mais quand la violence est particulièrement marquée, comme dans le cas d'un viol, d'une agression, de violence conjugale, par exemple, ça peut faciliter la prise de conscience du fait que les victimes de violences dans nos sociétés suivent une répartition qu'on pourrait dire sexuée. Les femmes sont beaucoup plus victimes de violences conjugales que les hommes et tout ça. Et des fois, la réalité l'expérience personnelle finit par mener à une prise de conscience que ça a une dimension collective, quoi. Ensuite, le fait de ne pas correspondre aux standards masculins pour un gars peut aussi amener à être sensibilisé au fait que les attributs qu'on assigne aux femmes sont dévalorisés, à la fois symboliquement et matériellement. T'sais, on peut penser à l'homophobie, par exemple, qui est peut-être la forme la plus extrême de ce que j'essaie de dire. T'sais, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'un homophobe, en fait, va reprocher à un homme gay? Il va lui reprocher de ne pas être assez masculin, il va lui reprocher d'être efféminé, il va lui reprocher d'avoir des rapports avec des hommes. T'sais, ce qu'il reproche en dernière instance à la personne gay, c'est d'agir comme une femme. Si on, donc, ça peut contribuer à une sensibilisation de réaliser que il y a une division encore très nette aujourd'hui entre comment les hommes et les femmes devraient agir, puis que quand on transgresse cette séparation-là, ben on est victime souvent d'intimidation puis des violences qui peuvent être très graves, quoi. Ensuite, comme disait Annie au début, les femmes antiféministes souvent appartiennent à des milieux plutôt de droite ou conservateurs idéologiquement. Il y a, dans la gauche, une sensibilité peut-être plus importante au féminisme, ou du moins le fait de se dire homme de gauche, d'avoir des sensibilités égalitaires, d'être favorable à la justice sociale et à la lutte contre les inégalités, peut favoriser l'adoption d'une posture qu'on dira féministe. Et puis, il y a aussi, par contre, des motifs moins nobles, notamment avoir un intérêt à se dire féministe. Faut pas se le cacher. Il y a des milieux, il y a des environnements dans lesquels ça peut jouer en notre faveur de se dire favorable à l'égalité entre les sexes, de se dire pro ou féministe tout court. Comme par exemple au gouvernement, t'es Justin Trudeau qui va se dire féministe comme si ça allait de soi, quoi. Jean Charest, même quand il était encore en poste, disait qu'il était fier d'avoir un cabinet paritaire, puis que pour lui, le féminisme était une lutte quand même importante. Je veux dire, ça allait être un petit peu abandonné par Philippe Couillard, l'idée d'un cabinet paritaire, mais bon, on reviendra là. Toujours est-il que, t'es au-delà des principes, il y a parfois, en dernière instance, c'est ça, un intérêt, des avantages en quelque sorte à se dire féministe parce que ça paraît bien, parce que ça désamorce peut-être des méfiances qu'il peut avoir à l'endroit d'une personne, parce que ça construit une image qui est positive. Mais à partir de là, ce que je vais tenter d'illustrer dans le reste de ma présentation, c'est comment cette posture intéressée par rapport au féministe se traduit souvent par une distance entre le discours et les actes, entre le fait de se dire féministe puis comment on agit concrètement en tant que gars. À l'intérieur des milieux féministes. Alors, je dirais, pour conclure cette rapide présentation des hommes pro-féministes au regard de ce qui peut motiver un homme à adhérer au mouvement, on peut dire qu'il y a des prédispositions, il y a des conditions qui peuvent faciliter le fait de se dire féministe, mais en dernière instance, même si ça paraît comme une évidence, il faut le répéter, il n'y a pas d'homme pro-féministe sans femme ou sans mouvement féministe, en dernière instance. C'est-à-dire qu'un engagement féministe sincère chez un homme résulte toujours de la présence d'une femme ou d'un mouvement de femmes qui vient lui faire prendre conscience de ses privilèges puis qui est capable d'établir un rapport de force suffisamment important avec cet homme-là pour lui faire prendre conscience de ses privilèges puis de lui, en quelque sorte, de le convaincre de la nécessité, dans une perspective égalitaire, de travailler sur ces privilèges-là qui nous reviennent en tant qu'hommes. Privilèges sur lesquels on va pouvoir développer plus loin pendant que je vais développer un peu mon exposé. Mais voilà, je pense qu'il faut dire, en tant qu'homme pro-féministe, on peut, notre contexte, notre personnalité, nos convictions politiques peuvent favoriser une prise de conscience, mais en dernière instance, le fait de s'engager dans la lutte féministe pour les hommes, c'est toujours un travail des féministes elles-mêmes. T'sais. Donc, ceci étant dit, c'était la première question qu'on voulait se poser ensemble. On peut se demander maintenant pourquoi les hommes pro-féministes peuvent finir par poser problème pour le mouvement, quoi. Eh bien, c'est assez simple. On parlait tantôt de la distance entre le discours et les actes. C'est que un homme qui se dit pro-féministe, qui dit adhérer au mouvement pour les femmes, pour laisser plus de place aux femmes, pour leur permettre de gagner plus de pouvoir, de gagner en autonomie, le fait d'adhérer à ce mouvement-là ne fait pas que les hommes perdent automatiquement leurs privilèges. Comme, par exemple, le fait de se dire antiraciste ou de se dire favorable, en fin de compte, à l'émancipation des pays les plus pauvres, fait pas qu'automatiquement, on cesse de bénéficier de la division internationale du travail qui fait que nous, on peut avoir une quantité quand même considérable de richesses, occuper des emplois qui sont valorisants, alors qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui travaillent dans des sweatshops, dans des ateliers de misère, 12 heures par jour, et qui, quand ils essaient de se syndicaliser, se font tirer dessus par la police d'État, quoi. Alors, tu sais, faut être capable de rendre compte du fait que au-delà des idées dont on se revendique, ben il y a des structures dans lesquelles on s'inscrit, puis que si on réfléchit pas à la manière dont on les reproduit, ces structures-là, de la manière dont on s'y inscrit, ben on peut dire tout ce qu'on veut, on peut adopter toutes les postures du monde, mais ça veut pas dire qu'on change concrètement notre réalité, tu sais, ou qu'on fait avancer nos idées dans les faits, quoi. Alors, j'aimerais, à partir de cette déclaration tout à fait choc, mettre de l'avant 6 postures qui nous apparaissent problématiques dans une perspective féministe pour des hommes. Oui, bien sûr. Donc, ben la première posture, c'est celle qu'on pourrait appeler l'opportuniste. Alors, un homme pro-féministe opportuniste, c'est au fond un homme qui va se réclamer du féministe quand c'est à la mode. Souvent, ça va suivre, par exemple, dans le milieu militant ou étudiant, les périodes de mobilisation. T'es en 2012, tous les hommes vont se découvrir une passion pour le féminisme parce que c'est le mouvement des carrés rouges, il y a une réflexion sur l'égalité, la justice, tout ça. Il y a une forte implication aussi des femmes. Je veux dire, le mouvement en 2012 a été porté en bonne partie par des militantes sur le terrain, là, même si les figures publiques ont été majoritairement masculines dans les médias. Ça reste que le travail de terrain a été beaucoup accompli par des militantes féministes. Donc voilà, il y a des hommes qui, là, tout à coup, vont se découvrir une fibre un peu féministe, mais qui souvent, dès que le mouvement féministe perd un peu de son lustre ou de sa visibilité dans un espace donné, vont cesser s'en réclamer, quoi. Ou vont même se déclarer sceptiques ou hostiles à son endroit. Ben, c'est une posture qui, évidemment, est problématique, parce que le féminisme, ben, c'est pas une mode, hein? C'est pas une chemise qu'on porte quand ça paraît bien. Si le féminisme fait du sens à la fois pour les femmes puis pour les hommes, ben, c'est en tant qu'engagement quotidien, en tant que réflexion sur comment qu'on peut faire avancer concrètement l'égalité entre les sexes dans nos vies, puis collectivement par l'entremise des institutions puis des structures. Alors, l'opportuniste pose problème pour ces raisons-là. On peut en venir à la deuxième figure problématique, en l'occurrence, le poseur. Alors, le poseur, au fond, ça va être l'homme pro-féministe qui, parce qu'il se réclame du féminisme, parce qu'il adopte quelques principes féministes dans ses pratiques aussi, va d'une part se croire supérieur aux autres hommes, va commencer à se dire « je suis tellement plus qu'eux parce que j'ai adopté les bons principes et que je suis du côté de la vertu », mais qui, de manière encore plus problématique, vont souvent réclamer en quelque sorte des médailles de manière permanente du côté des femmes. T'sais. Ça va être par exemple, je sais pas, un homme qui fait la vaisselle dans une réunion militante puis qui s'attend à être félicité. T'sais, alors que. Puis c'est quand même pas si. Bon, ça a l'air caricatural, mais c'est pas si marginal que ça. T'sais. Je veux dire, le fait que les hommes prennent part de manière plus régulière ou d'essayer d'atteindre la parité dans les tâches plus dites invisibilisées, ou qui sont souvent considérées comme pas importantes, comme justement faire la vaisselle, faire le rangement, le travail logistique pour des activités militantes ou pour quoi que ce soit. Tu sais, c'est souvent du travail qui est pas valorisé, mais qui en même temps est absolument essentiel pour que les choses marchent. Dès que des hommes commencent à y prendre plus part dans des cercles féministes, c'est comme s'ils s'attendaient à chaque fois à avoir une tape sur l'épaule en faisant « bravo, c'est vraiment chouette ce que tu fais ». Tu sais. Mais c'est une posture qui pose problème, parce qu'ultimement, ce comportement-là devrait pas continuer à être une exception qui doit toujours être mise en valeur. T'sais, ça ne devrait pas continuer à être un truc qu'on fait « Oh, wow, un homme qui fait la vaisselle, t'sais, félicitons-le. » C'est dans une perspective vraiment féministe, ça devrait devenir la norme que les gars prennent plus part aux tâches qui ne sont pas valorisées, puis laissent plus de place aux femmes pour les tâches qui le sont, comme prendre la parole en public, faire les discours dans les manifestations, rédiger l'article sur la couverture d'un journal militant ou quoi que ce soit. Puis là, je parle beaucoup du domaine militant parce que c'est le milieu que je fréquente beaucoup, quoi. Mais je veux dire, j'imagine que c'est des images qui peuvent résonner dans vos vies aussi. T'sais, ultimement, on fait la vaisselle à peu près partout, là. Je veux dire, on a à accomplir des tâches domestiques dans nos vies en général. Mais sinon, on reviendra dans la discussion si vous voulez élargir un peu à partir de vos réalités, là. Maintenant, on pourrait passer à une autre figure d'homme pro-féministe qui pose souvent problème. Donc, c'est écrit « Le problème avec les femmes est qu'elles ne comprennent pas le féminisme autant que moi. Hein? » Donc, c'est la figure de l'initié. C'est l'homme qui est initié, en fin de compte, aux enjeux féministes. C'est souvent une personne qui gravite dans les cercles militants depuis un moment, qui a lu un peu les auteurs féministes aussi, et qui, par cette espèce d'aisance qu'il développe dans ce milieu-là, n'en vient à se sentir autorisé à dire aux femmes comment vivre leur féminisme. Ou de leur dire, par exemple, ta jupe est vraiment courte aujourd'hui. Je trouve que tu participes beaucoup à l'hypersexualisation. Je suis vraiment, vraiment pas d'accord avec ta perspective sur tel enjeu. Je pense que tu devrais faire ça, ça, ça. C'est une posture qui pose problème. Il y a un terme anglais pour ça qui n'est pas vraiment d'équivalent français. On appelle ça le mansplaining, qui est en fin de compte un porte-manteau pour deux thèmes, là, mans puis planning, t'es planification. Et puis ce que ça dit, c'est que ce qui pose problème avec l'initié quand il va faire ce qu'on appelle en anglais du mansplaining, c'est qu'ultimement, il reproduit dans les cercles militants ou dans les cercles féministes un des principaux plis, qu'on pourrait dire, d'une éducation patriarcale, c'est-à-dire que les hommes se sentent autorisés à dire aux femmes quoi faire sur leur vie, quoi faire de leur corps, quoi faire dans leur parcours individuel, professionnel. C'est en fin de compte reproduire un des principaux traits, le fait que les hommes se sentent autorisés à donner des ordres puis à commander, puis à dire aux femmes qu'ils savent plus qu'elles sur ce qu'elles devraient faire elles-mêmes. En fin de compte, l'initié vient reproduire ce comportement-là, mais dans des milieux militants. C'est éminemment problématique. On peut passer, oui, à la quatrième. Donc, c'est la figure de l'humaniste. Donc, on a décidé d'y aller avec un type avec une barbe molle et des cheveux longs qui fait un peu hippie. Au fond, l'humaniste, c'est qui? L'humaniste, c'est l'homme qui va se dire féministe d'abord pour lui-même. Tu sais, il va dire, je suis féministe parce que moi, en tant qu'homme, je suis opprimé, quoi. Tu sais, fait que là, c'est vraiment pas bien, puis c'est pour ça que j'adhère au mouvement et tout. Et puis, c'est une posture qui peut avoir l'air sympathique au premier abord, tu sais, parce que puis ça peut être sincère, quoi, je veux dire. Encore une fois, peut-être je tiens à souligner d'emblée qu'on n'est pas vraiment sur le domaine des intentions ici. Tu sais, c'est pas grave, ces figures-là ou ces personnes-là, individuellement, c'est quoi qu'elles veulent faire, mais c'est les effets de leurs actions, en fin de compte. Faut opérer un peu cette coupure-là, tu sais. En fin de compte, tu peux être la personne la mieux intentionnée de la planète, puis ça t'empêche pas des fois d'avoir des effets négatifs dans ta manière d'agir. Puis l'humaniste, ce qui est problématique avec cette posture-là, c'est que, encore une fois, elle reproduit ce qu'on pourrait appeler un autre pli de l'éducation patriarcale, c'est-à-dire une tendance chez les gars à tout rapporter à eux-mêmes. T'sais. Je veux dire, si l'engagement des hommes a une pertinence ou un intérêt dans une perspective féministe, ben c'est peut-être justement d'apprendre à parler des femmes, d'abord, en fait, des femmes dans le mouvement des femmes, puis de ne pas toujours dire, ben moi, je suis un homme, fait que, t'sais, moi, je trouve ça super important, le féministe, puis... je le fais pour moi, en fin de compte, m'engager dans le mouvement des femmes, puis il faut que je trouve ma place, il faut que je m'aménage un petit espace, puis que ma place soit valorisée dans le mouvement. Mais tu sais, c'est peut-être que un des principaux atouts, en fin de compte, d'une éducation féministe chez un homme, c'est d'apprendre à penser un peu plus aux autres, puis à penser plus en fonction, justement, des femmes, en tant que j'appartiens pas à ce groupe-là, mais que je veux qu'ils gagnent en autonomie. T'sais. Ce qui est une caractéristique qui, dans la socialisation, est souvent féminine, je dirais, t'sais, de penser davantage aux autres avant de penser à soi-même. Donc, c'est en partie pour ça que l'humanisme peut poser problème. On peut maintenant passer à une autre figure. Donc, ça, c'est une figure typiquement militante. Je dirais, là, c'est l'autoflagellateur. Hein? Ça va être un gars qui va passer sa vie à se culpabiliser en disant « Mon Dieu, les injustices. Mon Dieu, le patriarcat. Mon Dieu, tout est... » Il y a des équivalents, par exemple, quand... Je reviens sur mon exemple là, sur les inégalités entre les pays. T'sais, si on peut dire... Mon Dieu, la famine dans le monde, mon Dieu, la pauvreté, la misère, mon Dieu, tout, tu sais. Je veux dire, c'est pas problématique en soi de constater des inégalités, mais c'est que quand t'en fais un prétexte à rien faire ou à passer ta vie à te culpabiliser toi-même puis à dire que tu peux rien y faire, ben ça devient un prétexte à l'inaction. Et dans les cercles féministes, c'est d'autant plus problématique que cette figure-là, souvent, va rechercher le confort des femmes puis va chercher à être consolée puis va penser que sa forme d'action principale puis suffisante, c'est de passer sa vie à s'excuser lui-même d'exister, alors que ça vaudrait, c'est beaucoup plus productif puis pertinent d'essayer de voir qu'est-ce que tu fais concrètement à la lumière des inégalités existantes, puis de voir comment tu agis, puis de pas passer ta vie à dire, je suis un homme, donc automatiquement je reproduis le patriarcat, donc je suis mieux de rien faire, puis de passer ma vie à me plaindre, je veux dire, ça, on n'aurait pas obtenu le droit de vote avec des autoflagellateurs, quoi. Donc on peut passer à la sixième figure, qui est celle du séducteur. Alors, on revient un peu à la question des intérêts. Hein, quand on disait l'opposition entre adopter le féminisme par principe et par intérêt personnel, ben, le séducteur, ça peut être... c'est un homme qui, en fin de compte, va se revendiquer du féministe pour séduire des féministes. Parce que la posture féministe dans un milieu passe bien, elle plaît, si on ose dire. Donc, le fait de se dire féministe devient pratiquement une méthode d'accès ou une façon de faciliter l'accès au corps des féministes dans une perspective de séduction. Puis, bon, c'est une posture qui est évidemment problématique en elle-même parce qu'elle instrumentalise, en fait, contre le féminisme à des fins vraiment égoïstes. Mais elle est intéressante à étudier aussi pour nous parce que quand on parle de distance entre le discours puis les actes auxquels on a fait référence tantôt, le pire terrain dans une vie, là, l'espace dans lequel la distance entre le discours puis les actes sur les questions féministes est le plus accru, c'est définitivement la vie intime. C'est vraiment sur la question de la vie personnelle, sentimentale, sexuelle, que souvent l'écart puis l'antiféminisme, mettons, concret, là, réellement existant, va se manifester chez les hommes. On l'a vu dans le milieu militant après le printemps érable en 2012. Peut-être que vous avez entendu parler qu'il y avait eu une vague considérable à l'automne 2012 de dénonciation d'agressions sexuelles qui avaient eu lieu pendant le conflit étudiant. Ça a été vraiment un moment déchirant pour le mouvement, pendant lequel on apprend que des hommes qui s'impliquaient dans le mouvement, qui se disaient féministes, avaient agressé des collègues, avaient agressé des camarades. Et puis, pourtant, c'est des hommes que, si on leur avait demandé leur avis sur le consentement, ils auraient fait un long exposé de 15 minutes pour expliquer à quel point c'était essentiel, quoi. T'sais. Donc, c'est ça, c'est une des figures auxquelles il faut être particulièrement attentif parce qu'elle se reproduit souvent et qu'elle a des effets très très graves dans les groupes. On peut passer à la... Ah ben non, c'est vrai, j'ai pas d'autres. Je dirais pour conclure cette section-là, ultimement, si on avait à regrouper toutes ces catégories-là en un seul énoncé, ce qui peut poser problème en fait avec les hommes pro-féministes, c'est la question de ce qu'on pourrait appeler les tirs amis. C'est un concept militaire, là, friendly fire, c'est quand... un soldat américain tire sur un autre soldat américain par accident, je veux dire, pour le dire comme très brutalement. Mais dans le contexte qui nous intéresse, les tirs amis, c'est l'ensemble des attitudes, des comportements, des propos qui viennent nuire à l'atteinte des objectifs des groupes féministes, alors que ces comportements-là sont adoptés par des hommes qui vont se dire pro-féministes. Fait que c'est pour ça qu'on parle d'un tir ami. Puis parmi ces tirs amis-là, ben, on peut en énumérer quatre rapidement, donc qui viennent évidemment rejoindre ce dont on vient de parler. D'une part, quand des alliés hommes féministes se substituent aux militantes féministes en parlant à leur place. Après ça, quand des alliés féministes vont faire ce qu'on a appelé tantôt du mansplaining, puis entre autres vont établir la limite entre le bon et le mauvais féminisme. T'sais, quand des hommes vont dire « là, vous allez trop loin ». C'est vraiment aux hommes de dire aux femmes « t'sais, quand est-ce qu'elles vont trop loin ?» Ça aide beaucoup à leur autonomie, apparemment. Après ça, troisièmement, ça renvoie un peu à la figure du poseur. T'sais, quand des alliés réclament des lauriers, en quelque sorte, pour chacune de leurs actions, même quand elles sont banales. Puis, quatrième, qui me semble englober tout, c'est quand des alliés féministes, quand ils ne prennent pas la critique que leur adressent les autres militantes, quand ils sollicitent constamment l'attention des féministes, notamment sur le terrain sexuel, puis quand, ultimement, ils sont toujours en train d'occuper les féministes avec tous les comportements problématiques qu'ils peuvent avoir dans les groupes, ben, ils empêchent les militantes féministes de s'organiser parce qu'elles passent trop de temps à essayer de réparer les pots cassés. Puis, des fois même, comme dans le cas de la séduction puis du scandale des agressions, peuvent empêcher les militantes féministes de se sentir en sécurité dans les cercles féministes. Puis dans les espaces, en fin de compte, où les militantes féministes et les femmes essayent de se rencontrer pour s'organiser. Fait que, à partir de là, on peut peut-être se demander rapidement comment on fait pour ne pas devenir un faux ami des mouvements féministes, quand on est un homme qui se réclame de ça. Puis cette question-là peut peut-être se formuler plus précisément comme ça. C'est, en fin de compte, quelle place que les hommes peuvent prendre dans le processus qu'on dira d'empowerment des femmes. C'est un terme anglais qui, encore une fois... a pas d'équivalent français clair. Il n'y a pas de crayon, donc je vais prendre ça. Puis je vais le marquer ici. Ça paraît pas vraiment. Le poseur prend comme... Okay. Peut-être si je... Ah, voilà, du coup. Ouais. Donc, on a un terme français qui s'appelle « empowerment » qui a été traduit en français par « processus de mise en puissance, empuissantisation ». C'est vraiment des termes affreux. Fait que généralement, on s'en tient comme à l'original anglophone. Donc, l'empowerment, c'est l'idée de gagner en autonomie. c'est un peu cette idée-là qui a traversé l'ensemble de notre propos, que les femmes, en fin de compte, se sentent plus légitimes puis plus autorisées, par exemple, à prendre la parole en public, à occuper des postes de haute direction. C'est ça, l'empowerment. Puis la question que peut se poser un homme qui se dit favorable aux féministes, c'est comment contribuer à l'empowerment des femmes, ce qui suppose généralement un processus inverse. Ça, c'est une flèche droite, là, en dépit des apparences. Là. Donc, pour les hommes, le processus va être dit de « dis-empowerment hein, ». Le « dis », c'est une négation, là, en tant que préfixe en anglais. Donc, l'idée, c'est que pour que les femmes puissent prendre plus de place, ben, faut que les hommes reconnaissent qu'ils en prennent trop, en général, puis qu'ils commencent à céder un peu sur leurs privilèges, qu'ils les reconnaissent, puis qu'ils, par exemple, prennent plus part, comme on le disait tantôt, au travail invisibilisé, qui laissent plus de place aux femmes dans les postes de décision, qui leur permettent de gagner en autonomie, en fait, sur les différents plans de leur vie. Et puis là, on peut se demander peut-être rapidement, ouais, mais qu'est-ce qu'on y gagne, en fin de compte, les gars, t'sais? Pourquoi qu'on s'engagerait dans un processus de disempowerment? Pourquoi qu'on céderait volontairement du pouvoir qu'on a actuellement? Ben, je répondrais rapidement que, en acceptant de prendre moins de place, on contribue à l'émergence de pratiques sociales égalitaires, puis à des, on contribue en fin de compte à créer des espaces inclusifs, notamment pour les femmes. Mais c'est une réflexion qui peut évidemment se transposer dans d'autres groupes, notamment pour les luttes antiracistes. Donc, je pense que je conclurai là-dessus. Je vous laisserai intervenir. Sinon, moi, Piané, évidemment, on va pouvoir compléter peut-être s'il y a quoi que ce soit. Donc, ça compléterait a priori. Donc, merci beaucoup pour votre écoute en passant.
Donc, on peut faire une période de questions. Évidemment, on privilégierait une stratégie d'alternance homme-femme pour les questions. Aussi, on va privilégier les gens qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, s'il y a des gens qui ont plusieurs questions, on va privilégier peut-être poser votre meilleur en premier. Donc, est-ce que les gens ont des questions, des commentaires, des réactions? Oui?
Est-ce que vous pensez que le féminisme aujourd'hui est autant important que, mettons, dans les années 70 ou 80?
Oui. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été faites, ça on ne peut pas le nier, avec notamment au niveau législatif. Par contre, quand on regarde concrètement ce qui se passe dans la vie des femmes, il y a encore énormément d'inégalités, que ce soit au niveau salarial, au niveau de la violence envers les femmes, au niveau de l'accession à certains espaces, la visibilité des femmes en général. Il y a encore énormément de choses qui sont à faire. Et puis aussi, autour de la réflexion aussi de quelles femmes ont accès à quel espace. Donc, il y a encore énormément de femmes qui sont victimes d'énormément d'inégalités, mais qui n'ont pas de visibilité qu'on n'entend jamais. Je parlais encore de la question des celles qui sont les plus privilégiées, qui ont réussi à accéder à certains espaces, c'est souvent des femmes issues des milieux aisés, blanches, hétérosexuelles, etc. Alors qu'il y a énormément d'inégalités et de violences envers énormément de femmes, mais qui c'est moins visible, qu'on voit moins, mais qui sont encore très, très présentes aujourd'hui. Donc, à mon sens, oui, le féminisme est très pertinent encore aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Ça me semble complet. Je dirais les enjeux ont changé. Résolument, on est beaucoup moins dans la sphère des acquis juridiques, là, comme on disait au début, mais il me semble encore qu'il y a beaucoup de gains, ne serait-ce qu'à maintenir, parce qu'on observe depuis au moins 90 au Québec, après la tuerie de la Polytechnique, un recul là, des acquis féministes, puis la montée d'un discours qu'on pourrait dire masculiniste ou très franchement antiféministe. Fait que, je pense qu'il faut... Il y a des gains, mais en même temps, ils sont fragiles, puis il y a encore du travail à faire.
J'avais une question ici.
Oui, j'aurais voulu vous entendre en fond sur ce que vous parlez tantôt, est-ce que les antiféministes sont amis? Mm-hmm. Je
trouve que c'est intéressant. OK. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est des questions que je me pose aussi.
Je m'étais jamais posé cette question. Ben, un peu, parce que quand on entend, c'est des femmes, des fois, qu'on admire, comme la phrase.
Ouais.
C'est décevant d'entendre ça, mais dans un sens, je pense qu'ils peuvent être nos alliés choses. Je sais pas.
Ben, c'est sûr qu'à certains égards, c'est des femmes qui... Je les vois comme des alliées, comme étant peut-être des modèles, même si c'est pas les genres de modèles qu'on souhaiterait toujours avoir, mais ça reste des femmes qui ont réussi à atteindre certains espaces. Donc, à ce niveau-là, qui ont une visibilité, qui sont très présentes, donc qui ont beaucoup de place dans les médias. Donc, ça reste aussi, à quelque part, tu sais, on peut pas être contre le fait qu'il y a des femmes qui réussissent à atteindre ces espaces-là, qu'il y a plus de femmes, tu sais, qu'il y a des femmes ministres, qu'il y a des, tu sais, on peut pas être contre ça. C'est, à quelque part, c'est des alliés dans ce sens-là. Mm-hmm. Mais après ça, c'est sûr que le discours qu'elles portent, des fois, ça nous nuit beaucoup plus que ça nous aide. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais y aller en... Est-ce que ça répondait à ta question? Ou est-ce que...
Oui, je comprends que c'est une réflexion d'un
fond. Oui, exact. Je continue à y penser. Puis, c'est des questions que je lance aussi, peut-être. Mm-hmm. Que ça peut faire...
Juste sur le même point.
Vas-y.
En tant que si les antiféministes amènent des points qui sont basés sur des dérives dans le mouvement, parce que des dérives dans tout mouvement, à mon avis, que ce soit dans le féminisme, dans le masculinisme, dans la droite, dans la gauche, n'importe le mouvement, la critique vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Si l'argument, si on ne prend pas en considération le contenant, si le contenu est valide, si ça nous permet d'avoir une réflexion critique sur nos positions, alors oui, les antiféministes, à mon avis, seraient des alliés importants.
OK, plusieurs affaires. Je pense que le mouvement féministe en soi est très critique de lui-même déjà. Il y a énormément de dissensions au sein du mouvement féministe et des chicanes entre féministes, là, c'est dans un congrès féministe ou dans le milieu féministe, c'est constamment. Là. Il y a des sujets très chauds où, tu sais, je pense que à quelque part, cette réflexion, cette autocritique-là du mouvement féministe se fait déjà très bien. Mais...
Il y a des femmes dans le mouvement féministe qui, selon certains autres féministes, l'épithète de féministe à cause de leur position. Par exemple, Jules Wendell, qui est une féministe très revendicatrice, qui se dit la deuxième vague et qui exècre la troisième vague. Mm-hmm. Et, souvent, elle n'a même pas le droit de s'exprimer dans des conférences parce qu'elle est exclue de par son discours.
Bien, encore là, ça revient à l'idée que je disais qu'il ne faut pas non plus voir le mouvement. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci. Il ne faut pas non plus voir le féminisme comme étant un mouvement unifié. Il y a plusieurs courants de pensée à l'intérieur du féminisme. Il y a des féminismes. Puis c'est sûr que le moyen de se rendre et les intérêts et les positions divergent énormément. Puis ça fait des discours qui sont sains, puis des réflexions qui sont saines, à mon avis. Donc, c'est sûr que oui, il y a beaucoup de chicanes entre les deuxième, troisième vagues, là, sur qu'est-ce qui est le plus important, est-ce qu'il faut plus parler du symbolique, la sexualité, ou s'il faut plus rester dans des réflexions plus systémiques, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de discussions qui se font à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus égaliser le féminisme et le masculinisme comme étant deux mouvements équivalents. Là. Déjà, c'est pas le masculinisme n'est pas le pendant masculin du féminisme. Le féminisme, c'est un mouvement pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis le masculinisme, c'est un contre-mouvement qui vient critiquer le féminisme, dire qu'ils sont allés trop loin, mais on peut pas voir ça comme étant équivalent. C'est sûr que, bon, après ça, il y a des positions idéologiques qui divergent. Là. C'est sûr que... Je sais pas. Ta question, excuse-moi, j'ai perdu. Si.
Non,
si.
Oui.
OK.
Est-ce que. C'était pour plusieurs questions, en fait, mais c'était pour enchaîner à la question d'Adam.
Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaitait intervenir?
Y a-t-il une fille qui avait quelque chose à dire avant?
Moi, c'est juste au niveau de la littérature. Vous avez dit qu'Elisabeth Badinter.
Oui. Ça, c'était référence à Chatelaine.
Qui est notre modèle en termes de littérature? Parce que si on est... Elle a écrit L'un et l'autre.
Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'elle a rédigé. Là. C'était
puis,
le.
Pardon, puis si par exemple, je pense Simone de Beauvoir qui a écrit le deuxième sexe, mm-hmm. est-ce que si vous mettez tout ça dans le même.
Ben, c'est des courants, dans le fond. C'est plus des femmes qui s'inscrivaient peut-être dans la deuxième vague féministe. Et donc aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de courants théoriques. C'est très, très, très varié. Là. Il y a,
puis maintenant,
moi, je me pose encore beaucoup de questions. J'ai de la misère à m'identifier à un courant. J'ai de la misère à me situer moi-même. Là. C'est sûr que je m'intéresse à un peu ce qui se fait un peu partout, mais je ne pourrais pas dire dans quel courant exactement je m'inscris en ce moment.
Les gens qui se promènent. Ils l'ont vécu pour arriver de prendre une pancarte et le faire, ou c'est juste parce qu'ils se donnent comme un pouvoir de dire regarde, je suis quelqu'un, puis j'arrive avec la pancarte. Je me suis toujours posé la question si les gens l'ont vécu ou c'est juste que c'est des.
Je sais qu'aux États-Unis, le mouvement prouvé est très, très, très fort aux États-Unis et c'est très, très lié à l'Église, en fait, au mouvement religieux. Donc, c'est souvent, en fait, des femmes qui sont très impliquées dans leur milieu, à l'Église, etc., qui vont un peu participer à ces groupes, à ces mouvements-là. J'ai déjà lu des anecdotes comme quoi qu'il y a des femmes très, très militantes, pro-vie, qui, secrètement, ont déjà eu des avortements, mais qui, c'est pas connu, c'est pas su, mais, tu sais, qui, au fond, disons que c'est comme une posture aussi sociale que de se dire pro-vie, ça participe à sa position idéologique, à ses positions politiques aussi, donc ça reste une posture politique, mais là, je sais pas, est-ce qu'elles ont déjà eu des avortements, ça reste une question beaucoup trop personnelle, je peux pas vraiment savoir. Peut-être, est-ce qu'il y avait un garçon qui avait...
Moi, c'était juste pour...
Adopter un code. C'est sûr que. Ils vont pas devenir des hommes.
Non, c'est ça.
Ben, c'est certain que. Moi, j'ai eu une implication politique aussi, donc j'ai été impliquée en milieu politique. C'est sûr que c'est un milieu très masculin. C'est très gars. Puis, si tu essaies de. Tu sais, pour avoir été. Dans des réunions, des choses comme ça, tu sais, il y a des codes aussi dans le milieu politique où c'est souvent celui qui va parler le plus fort qui va être entendu, celui qui va avoir plus confiance en lui, qui va avoir une grande gueule, etc. Puis en tant que femme, quand on est socialisée à être beaucoup plus, avoir moins confiance en nous, à être plus en retrait, à parler moins, etc., ça peut être très difficile. C'est sûr qu'il faut, disons... des fois se faire violence un peu, puis adopter certains codes qui sont associés à la masculinité. Mais là, est-ce que de dire, ben si je vais rentrer dans une logique plus de compétition, d'avoir une grande gueule, d'avoir confiance en moi, est-ce que c'est ça être un garçon? Est-ce que c'est ça être un homme? Ou si c'est pas justement de remettre en question la socialisation qu'on a vécue, tu sais, est-ce que ça fait pas de moi un homme si je m'inscris dans un modèle typiquement associé plus au masculin, mais je ne deviens pas un homme pour autant. C'est plus... Puis peut-être qu'au contraire, il va y avoir une transformation de la sphère politique. S'il y a plus de femmes qui s'impliquent, peut-être que justement, ça va se transformer un petit peu aussi, être moins comme ça. Mais c'est certain que ça reste un monde très gars, très masculin. C'est très impressionnant pour une fille qui veut s'impliquer en politique. C'est pas facile. Puis on est dévalorisé constamment. T'sais, notre parole est moins prise au sérieux que celle d'un homme, par exemple. C'est certain. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Si je réponds tout seul aux questions.
Je dirais, il y a un rapport à penser aussi entre la composition d'un groupe et les habitudes qui s'y installent. T'sais, c'est vrai que dans un premier temps, si la parité est installée, on ne cassera pas la culture comme très masculiniste, je dirais, là, du milieu politique parlementaire. Mais si éventuellement, il y a une plus grande proportion de femmes dans ce milieu-là qui occupent des postes de décision puis qui ne sont pas toujours rien que députées, là, bon, je dis rien, là, mise en parenthèse, mais qui occupent des postes de décision comme plus valorisés à l'intérieur de l'appareil gouvernemental, comme l'économie, je veux dire, la santé, l'éducation, qui sont comme un peu... ou même être première ministre. J'ai l'impression que si il y a ce travail-là qui se fait, ultimement, il va y avoir un changement un peu dans les manières d'agir et d'interagir. C'est un travail qui se fait sur le long terme, c'est un travail qui est soutenu, des fois un peu tatillon, mais c'est là que le changement se fait. C'est peut-être que quand... Puis je ne veux absolument pas dénigrer ta position, mais des fois qu'on est pessimiste aussi, c'est peut-être parce qu'on se fait une idée trop rapide du changement social. C'est peut-être qu'on a l'impression que ça va se faire d'une claque là, dès que les conditions sont réunies. Mais dès qu'on adopte une position plus modeste, mais qui invite en fin de compte à la persévérance, on réalise que les changements, il y a des trucs qui changent quand même. Dans le milieu universitaire, ça a été long quand même avant qu'il y ait une présence féminine forte des chaires d'études féministes. Mais une fois que c'est installé, ben, y a une sensibilité qui se développe quand même. Puis y a des hommes qui vont se dire sincèrement favorables au féminisme puis qui vont essayer d'adopter une attitude conséquente, ce qui ne serait pas vu il y a ça à peine 40 ans dans la plupart des milieux académiques. Au Québec, en tout cas.
Quotas, c'est d'essayer de contrebalancer tous les obstacles structurels que vivent les femmes qui veulent aller en politique. Donc, tu sais, pour une femme qui veut devenir politicienne, on s'entend que les femmes sont encore majoritairement responsables des tâches domestiques et familiales. Il y a toute la question de la maternité, la question, comme je disais, de la socialisation qui fait que les femmes sont moins à l'aise dans des milieux comme la politique. Donc, il y a toutes sortes d'obstacles comme ça qui vont traverser le parcours des femmes qui veulent aller en politique. Donc, les quotas, en fait, c'est une mesure pour essayer de redresser ça, pour essayer justement de faire en sorte que, malgré tous ces obstacles-là, les femmes ont quand même autant de chances que les hommes de pouvoir investir dans le milieu politique. Donc, il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de préférentiel envers les femmes, mais plus comme étant quelque chose pour redresser, pour venir un peu égaliser la situation des femmes qui vivent énormément d'obstacles dans leur tentative d'investir le milieu politique. Donc, pour moi, c'est une mesure intéressante à court terme, mais évidemment, à long terme, ça serait d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'obstacles pour personne, idéalement. Moi, je suis d'accord, les quotas, dans l'idéal, je serais contre. Sauf que, actuellement, le système fait en sorte que, présentement, aujourd'hui, c'est plus difficile pour un homme que pour une femme d'aller en politique. Donc, les quotas viennent un peu essayer de redresser cette situation-là. Donc, à court terme, je suis d'accord pour ce qu'il y a des quotas pour justement aider, mais idéalement, on s'en débarrasserait dans le DA. Ouais.
Je pense aussi que, pour que le quota soit pleinement efficace, ça prend une forme de travail et d'implication beaucoup, beaucoup plus large pour pas que ça devienne, comment dire, t'sais, pour prendre un exemple aussi, j'ai eu l'occasion de m'impliquer dans différentes instances, puis entre autres, dans un groupe dans lequel je me suis impliqué, toutes les instances étaient paritaires, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas une assez forte présence féminine à la base, fait que ça fait que les trois femmes qu'on avait dans notre groupe étaient obligées de siéger partout, faisaient plus de travail que tous les gars, parce qu'on leur disait « ben, peux-tu assister à telle réunion, il faut qu'on soit paritaire ». Dans ce cas-là, c'est éminemment problématique, mais ça veut dire qu'en dernier sens, le quota, si on veut que ça marche, il faut aller voir aussi à la base ce qui fait que les femmes s'impliquent moins dans les groupes politiques. Fait que c'est, je pense que c'est là que ça peut devenir pertinent pour éventuellement ne plus être nécessaire. Ça serait vraiment l'idéal. Mais ça peut obliger à une réflexion sur tout le processus qui mène, en fin de compte, d'un stade initial où la personne n'est pas intéressée par le groupe politique jusqu'à l'obtention d'un poste de décision important.
Ben justement, le Conseil du statut de la femme, à chaque année, fait des études pour essayer de comptabiliser au niveau statistique, voir qu'est-ce qui arrive au niveau salaire. Je pense qu'en ce moment, c'est autour de... Les femmes gagnent autour, je dis à peu près, mais c'est autour de 73 % du salaire des hommes. Ce qui se passe, en fait, c'est que au niveau légal... on est censé rémunérer les hommes et les femmes de la même manière, sauf que les femmes se retrouvent beaucoup plus dans les emplois qui sont dévalorisés et moins payés. Donc, par exemple, il va y avoir beaucoup plus de femmes dans les métiers de soins ou les métiers plus invisibles. Pour un même métier, c'est censé, mais encore là, il y a des inégalités qui subsistent. Juste, par exemple, moi, je m'intéresse aux inégalités en milieu scolaire, puis les enseignants. Souvent, le fait, par exemple, que les femmes vont avoir des enfants, donc aller plus souvent congé de maternité, donc on va avancer moins rapidement. Par exemple, le fait que le milieu de l'enseignement, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, les hommes sont vus comme une valeur, comme étant une ressource rare, donc vont se trouver des emplois beaucoup plus rapidement et du temps plein beaucoup plus rapidement, ce qui fait en sorte que les hommes vont finir par avoir des salaires plus intéressants plus rapidement que les femmes. Et monter les échelons plus rapidement parce que les femmes vont avoir des enfants, etc. Donc, au bout du compte, en fin de compte, oui, il y a encore des différences au niveau salarial. Est-ce qu'il y avait des questions? Je sais qu'il y a des gens qui ont l'air d'être sur leur départ. Donc, je ne sais pas si vous voulez, on pourrait terminer ça. Puis au pire, s'il y a des gens qui veulent nous voir peut-être en privé, on pourrait continuer la discussion à ce moment-là. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.